Dans les années 70 et 80, le cinéma de genre irlandais est un petit monde à peine existant. Mais par-delà les préjugés, quelques films voient le jour et méritent le détour. Cette période foisonnante sera plus tard posée sur un piédestal et un scénariste et réalisateur sera le fer de lance de tous les plus grands films d'horreur du moment. Du moins, jusqu'à la tragédie qui frappera le monde du cinéma irlandais quelques 40 ans plus tard. Il s'appelle Brian Rourke, surnommé le faiseur de cauchemars irlandais. Bonjour à tous, je suis Dan et vous écoutez La part obscure du cinéma, le podcast qui vous parle de la face cachée des films d'horreur. En cette année 1968, la cérémonie de la Dublin Film Festival, une firme institutionnelle cinématographique, n'est pas des plus joyeuses. Cette équivalence des Oscars irlandais remet depuis 10 ans des prix aux meilleures créations audiovisuelles. Parmi les nominés de cette édition, quelques courts-métrages, des documentaires et des publicités. Il n'y a aucun véritable film de cinéma irlandais et cela fait plusieurs années que la production locale peut se compter sur les doigts d'une main. Maigre espoir lors de cette cérémonie de 68, le Premier ministre Terence O'Neill, tiraillé entre les revendications du peuple et l'IRA, est présent. Il veut changer la tendance et annonce la création d'un fonds pour aider au développement du cinéma de son pays. C'est l'un des premiers signes qui permettra à la production irlandaise de renaître. La nouvelle vague de cinéastes va prendre son envol et le cinéma de genre va se développer jusqu'au carton du siècle. Au nom du père de Jim Sheridan. Ce drame historique sur les tourments de l'Irlande du Nord permettra à Daniel Day-Lewis de devenir une star internationale. Il existe de nombreux autres films tout aussi importants et réussis, mais nous nous concentrerons sur la vie d'un de ses plus fameux artisans, Brian O'Rourke. À 22 ans, O'Rourke n'a pas encore fait grand-chose de sa vie. Installé à Dublin, il étudie vaguement à l'université Trinity College et rêve secrètement de devenir un grand écrivain, depuis qu'il a découvert des auteurs comme Edgar Allan Poe et H.P. Lovecraft. Il vient juste de se marier et sa femme et lui attendent leur premier enfant. Le couple décide d'aller construire sa vie ailleurs qu'à Dublin. Et ils partent pour le soleil de la Californie. C'est à Los Angeles qu'ils posent leurs valises sans véritable motivation ni projet autre que de trouver du travail dans l'industrie du livre. La vie là-bas est chère, mais le beau temps et les starlettes, à portée de main, motivent Brian. Le couple achète une voiture et sillonne les avenues bordées de palmiers de Hollywood Boulevard. Afin de subvenir aux besoins de la famille, Brian trouve rapidement un emploi dans un journal quotidien, le Sunlight Tribune. Sans doute grâce à ses quelques années à étudier le journalisme à Dublin, il enchaîne des petits jobs d'écriture jusqu'à ce qu'il apprenne qu'une société de production de télévision, la GMGT Productions, une filiale de la Metro-Goldwyn-Mayer, recherche des scénaristes pour leur série. Il lui envoie un script qui l'intéresse et Brian signe ses premiers pas en tant que scénariste. Il travaille essentiellement sur des séries policières. Il signe donc les scénarios de Police Agent, Sidney Smith, Simple Cop et Dark Deep Street. Ces trois séries, et plus globalement la télévision à cette époque, sont extrêmement populaires aux États-Unis. Le cinéma, lui, est encore loin de récolter un tel succès, mais les choses commencent à changer, et le budget consacré à la culture augmente. Il devient de plus en plus facile d'avoir de l'argent pour faire des films. En 1971, 3 ans après cette cérémonie de récompense au goût amer, l'Irlande, comme l'Australie et les États-Unis, suit le système de classification des films. C'est l'apparition du Rated, qui interdit certains films aux mineurs. Avec cette nouvelle classification, il est désormais possible de faire des films aussi violents que durs. On peut dès lors tout montrer. Cette liberté nouvelle donnera le coup d'envoi à l'Irish Protection, nom de l'entreprise qui décernera les Rated à une centaine de films, comédies déjantées, thriller fantastique et film d'horreur. C'est la naissance de la série B. C'est un terme fourre-tout pour désigner ces films à budget plutôt réduit et à l'imagerie racoleuse et qui vont fleurir à travers le monde. Au sein de ce mouvement, le cinéma de genre a la part belle. Rourke est désormais à son compte. Il travaille aussi pour plusieurs autres sociétés. Profitant de son temps libre, il commence à écrire un scénario de film. C'est une grande nouveauté pour lui. Il n'a jamais réellement appris à écrire un film et n'est armé que de son petit bagage de scénariste télé. Pour s'aider, il s'inspire d'une expérience personnelle, celle d'un voyage réalisé en famille dans l'est des États-Unis. Un endroit reculé, sauvage, et surtout une route interminable pour arriver sur une plage isolée. Un décor du bout du monde dans lequel se déroule son premier film long, Terror Journée. Le film raconte l'histoire d'un jeune couple pris en chasse par une créature marine vorace qui s'en prend aux deux personnages principaux pendant 1h25. Sur l'écran, c'est une débauche d'effets gore et de scènes choc. Malheureusement pour Rourke, le public n'est pas encore prêt. Et il se prend une volée de bois vert et de critiques de toutes parts, le plaçant à la tête des plus mauvais réalisateurs, détrônant ainsi Ed Wood, jusqu'alors roi incontesté du cinéma bis, voire Z. Il ne se laisse pas pour autant abattre et enchaîne le tournage de American's Blood Cult. Le film, lors de sa sortie dans les salles, déverse sur la toile des milliers de litres de sang, aspergeant un scénario totalement inexistant. Ce long métrage, de nos jours, est introuvable et fait partie des légendes urbaines, selon des fans du réalisateur. Ensuite, il participe à quelques scénarios underground new-yorkais, réalisés par d'obscurs réalisateurs tels que Nelson Friolity, John Artem ou Pedro Lamar. Tous ou presque ayant trempé dans le cinéma porno amateur, ou pour, selon les dires, dans de pseudo snuff movies vendus sous le manteau à de riches hommes en mal de sensations fortes. Las de cette vie de critiques et d'échecs, la femme de Rourke le quitte pour aller vivre avec un jeune producteur de Los Angeles. Dès lors, on n'entendra plus jamais parler d'elle. Vexé et seul, Rourke prend la dure décision de rentrer dans son pays natal pour s'y exiler. On restera sans nouvelles de lui pendant près de 10 longues années. C'est en 1998 que Rourke refait parler de lui sous le pseudonyme de Casper Tsidati. Il signe le chef-d'œuvre incontesté du cinéma de genre Evil Monk. On y suit la terrible vengeance d'un moine bafoué qui massacre tour à tour tous ceux qui l'ont fait souffrir par le passé. Les décors sont somptueux et le scénario aux multiples rebondissements tient durant les 2h20 que compte le film les spectateurs en haleine. C'est le retour en fanfare de l'enfant terrible du cinéma irlandais. Il enchaîne ensuite avec Paradise Blood et Terrific Story, qui seront des best-sellers en VHS. Puis il tourne Fountain of Fear et Pacific Psycho. C'est ce dernier qui lui ouvrira les portes de la High Society of Movie Makers. Grâce à cette institution, il arrive à débloquer suffisamment de fonds pour réaliser un remake de son premier film. Cette fois, c'est un carton plein. L'œuvre est aboutie et tout simplement terrifiante. Le film reste au box-office durant 8 mois d'affilée. Puis, plus rien. Rourke disparaît une fois de plus des radars. On le pense même mort. Le 18 juin 2006, un obscur film d'horreur sort directement en DVD. C'est une captation d'un film allemand réalisé sur bande et dont la datation est assez floue. Le DVD malheureusement n'arrivera jamais sur les étals des magasins, la censure en ayant décidé autrement. Personne n'a pu voir ce film, à part les quelques membres de l'équivalent du CSA irlandais. Depuis ce temps, certains membres de ce CSA ont été retrouvés morts dans des circonstances plus que douteuses. Mais après débunkage, tous les décès n'étaient pas aussi étranges, à part le fait que quelqu'un ait été retrouvé les yeux crevés. Bien sûr, les amateurs de légendes urbaines ont tout de suite pensé à une malédiction venue frapper tous ceux qui avaient posé les yeux sur ce film. Un peu à la façon des acteurs du film Poltergeist ou L'Exorciste. Les DVD furent détruits avant même leur mise en vente sur le marché. Cependant, quelques amateurs de cinéma travaillant pour des fanzines ont réussi à découvrir que la bande originale était encore en circulation. Tous cherchèrent d'arrache-pied à récupérer cette bande sans jamais y arriver. Les seuls indices étaient que Rourke avait participé au nettoyage et à la restauration de cette bande. Plus particulièrement de la cinquième. En effet, le film était partitionné en 5 bandes et devait approximativement durer 1 heure. Vous devez sûrement à présent vous demander pourquoi avoir fait un podcast sur ce réalisateur et où est à présent le film maudit dont je vous parle. Eh bien, figurez-vous que depuis 2006, mon équipe et moi-même, et avec l'aide de finances venues d'une aide extérieure, nous avons réussi à retrouver ces bandes, ainsi que la musique du film composée et jouée par un certain Robert Chambers, le tout dans une restauration impeccable. Toutes les bandes ont été retrouvées dans un petit appartement de Los Angeles suite au décès de la dernière personne qui les avait en sa possession. Le pauvre était allongé près des bobines avec une balle dans la tête qu'il s'était a priori tiré lui-même pour se suicider. Sombre histoire, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, les bobines ont été livrées chez moi. J'ai pu voir ce film et je dois vous avouer que je n'en suis pas ressorti indemne. Voilà pourquoi nous aimerions, mes investisseurs et moi-même, vous proposer de voir ce chef-d'œuvre en 4K restauré et mis en musique par le Grand Orchestre de Vienne lors d'une soirée exceptionnelle dont nous vous donnerons tous les détails très prochainement. Il sera projeté au TLC Chinese Theater de Los Angeles et ensuite et simultanément, il sera diffusé dans tous les grands cinémas à travers le monde, comme désiré par mes mécènes. Ils veulent de tout cœur partager avec vous ce film. Ils savent que vous allez l'adorer, comme eux avant moi et moi avant vous. Ils veulent vous transporter dans leur monde et leur aventure, que vous fassiez partie de l'histoire, de leur histoire. Que vous soyez en parfaite communion avec eux et qu'ils vous guident vers quelque chose de nouveau. Pour leur plus grande satisfaction, soyez des leurs. Laissez-vous guider par les grands anciens. Et voilà, mes amis, cet épisode est terminé. Il sera le dernier pour toujours et à jamais. Alors, juste un petit conseil entre vous et moi. Précipitez-vous vers la salle de cinéma la plus proche de chez vous pour aller voir ce film, ce chef-d'œuvre qu'est la tragédie de la déesse mutilée. J'espère que vous l'aimerez autant que nous l'avons adoré. De toute façon, vous serez obligés de l'adorer, tout comme nous l'avons fait. Nous vous obligerons à l'adorer, tout comme ils nous ont forcés à l'adorer, à oublier qui vous êtes pour mieux les servir, obligés à adorer la déesse. Bonne projection à tous. C'est un fait. Très souvent, les films cultes sont accompagnés de leur lot d'anecdotes bizarres, drôles ou terrifiantes. Nous avons déjà tous entendu des histoires macabres sur le tournage de certains films d'horreur. Des malédictions, des accidents ou la contraction de maladies mortelles survenues très rapidement. Étrange, n'est-ce pas? Nous aimons ce genre d'anecdotes. Ils participent à la légende d'un film. Ils nous plongent encore plus dans le malaise que le long métrage peut nous faire ressentir. Certains anciens films avaient pour phrase d'accroche « inspiré de faits réels ». Et ce, même quand aucun fait n'était réel. Ou bien « dites-vous que ce n'est qu'un film ». D'autres ont joué sur leur thème jusqu'à terroriser les spectateurs, comme « Les Dents de la Mer » et sa bande-annonce qui, encore aujourd'hui, me donne la chair de poule. Ou bien « L'Exorciste », qui paralyse certaines personnes rien qu'à l'écoute de son thème musical. En ce qui me concerne, je suis un peu mal à l'aise en écoutant la musique du générique du Retour des morts vivants. Et vous, quel est le film qui vous donne des sueurs froides? Je vous laisse y réfléchir. En attendant, je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 54 de Creepy Story. Après une entrée en matière plus que surprenante, je vous propose cette nuit d'écouter deux autres histoires lugubres à souhait. La première sort de mon cerveau malade, tandis que la deuxième m'a été envoyée par un auditeur prolifique, répondant au nom du rat technicien. Curieux nom, n'est-ce pas? Mais passons tout d'abord à la deuxième histoire, que j'ai moi-même intitulée « Le musée ». Je tiens quand même avant à préciser qu'à bien y réfléchir, je viens de faire l'intro la plus longue jamais entendue dans un podcast. Ils avaient fait le voyage jusqu'à Londres pour passer un week-end en amoureux. Ces derniers temps n'étaient pas très joyeux, malheureusement, pour ce jeune couple, Cathy et Pierre. Ils avaient vécu, avant leur départ, une difficile déception sentimentale. Pierre avait eu l'inconscience de tromper Cathy lors d'une soirée arrosée. Une de trop. Après maintes discussions, Cathy avait fini par pardonner Pierre, et ils avaient décidé de faire ce petit périple en Angleterre pour retrouver leur passion perdue. Encore légèrement sous les effets des antidépresseurs qu'elle avait arrêté de prendre quelques jours plus tôt, afin de profiter du moment, Cathy déambulait au bras de son tendre amour dans les rues londoniennes. Puis, profitant de la terrasse d'un pub en ce doux mois d'août, ils se surprirent à faire des projets d'avenir et à évoquer les rires d'un enfant. De temps à autre, Pierre quittait Cathy du regard pour le porter vers d'autres. Mais Cathy faisait mine de ne pas y faire attention. Cela faisait bien longtemps qu'elle n'avait pas bu d'alcool. Avec la prise de ses médicaments, ce n'était pas vraiment conseillé. Vint le moment où ils partirent pour errer une fois de plus dans les rues de la capitale. Puis, au détour d'une ruelle mal éclairée, ils furent attirés par les néons d'une devanture étrange. Une large pancarte indiquait l'emplacement d'une sorte de musée des horreurs. Un lieu pour touristes en mal de sensations fortes, se dit Pierre. Mais il fut bien obligé de suivre Cathy lorsque celle-ci décida d'y pénétrer. Elle lui dit qu'elle trouvait ça marrant et qu'elle voulait absolument essayer cette attraction terrifiante, selon une affiche publicitaire vieillotte, presque décollée, apposée sur la vitrine de l'entrée. Ils passèrent le guichet poussiéreux et abandonné, non sans avoir, avant cela, jeté sur le comptoir sale une poignée de pièces de monnaie. Et ils finirent par s'engouffrer dans la première salle de l'attraction. Une pièce plongée dans la pénombre, avec seulement une légère lumière orangée pour unique couleur. Ici, trônaient des restes de bocaux au contenu étrange et décrépit. Un petit mouton à deux têtes, un fœtus avec un siamois parasitaire, un chat à neuf pattes, les restes d'un amas de rats noirs aux yeux rouges, des entrailles et des doigts coupés venaient clôturer la macabre farandole de phénomènes. Une odeur de formol et de poussière envahit la pièce. Ils trouvèrent le passage qui menait à la deuxième salle. Cette fois, plongés dans le rouge le plus abyssal, ils furent surpris par la froideur du second lieu. Ils n'y trouvèrent rien de terrifiant à part un vieux sac poubelle qui remuait doucement. Pierre dit à Cathy que si les autres salles étaient identiques à celle-ci, il serait vraiment déçu d'avoir perdu son temps. Mais tout excitée par le sentiment d'avoir peur, elle lui répondit qu'elle était persuadée que la suite allait être redoutable et épouvantable. Pierre, blasé, essaya tant bien que mal de lui donner raison. Mais il n'en pensait pas moins. La troisième salle, d'un bleu pétrifiant, était quant à elle moins sombre, et laissait deviner sur ses murs tout un tas d'armes rouillées et d'outils moyenâgeux, servant sûrement à torturer de pauvres âmes. Cathy, le sourire aux lèvres, sautilla de mur en mur afin de prendre connaissance de tout ce matériel de mort. Pierre, fronçant les sourcils, lui demanda inquiet s'il pouvait passer à la chambre suivante. Plongée dans une lumière mauve incandescente, la pièce avait en son centre une caisse de bois vermoulu. La salle était baignée d'une odeur de moisie et de mucus. Pierre eut beaucoup de mal à respirer et voulut sortir de cette pièce malodorante. Mais ce fut peine perdue. D'une part parce que Cathy l'en empêcha, et d'autre parce qu'il n'y avait pas d'autre porte ou issue vers une prochaine salle. Puis, la caisse s'ouvrit. Une violente poussée fit sauter le couvercle antique qui vint se briser contre un des murs de la pièce. Le bruit fracassant fit sursauter le jeune couple. Ils poussèrent un cri à l'unisson. Puis après un moment de silence, Cathy éclata d'un rire nerveux. un rire franc qui fit penser à Pierre que sa compagne était devenue folle. Elle, avec qui il allait finir le reste de ses jours, à ses côtés. Et lui, qui se demandait comment il allait faire pour passer le reste de ses jours auprès de cette femme jalouse et inintéressante et fade. La pensée de la quitter, après ce séjour tout frais payé qu'elle avait décidé de lui offrir, lui vint à l'esprit et il se dit que c'était le prix à payer pour être tranquille par la suite. Puis les grognements commencèrent. Pierre se dit que c'était sûrement les effets sonores qui entraient en action. Mais il ne vit nulle part d'enceinte ou de système audio accroché sur les murs. Quelque chose sortit alors de la boîte. Oui, quelque chose. Non pas un homme ou une femme, mais une créature informe, comme recouverte de mélasse ou de goudron poisseux et luisant. La chose n'avait pas de bouche pour mordre ou d'yeux pour terrifier. Elle n'en avait pas besoin. En revanche, sa démarche saccadée et monstrueuse inspirait le dégoût et la peur. Pierre et Cathy reculèrent devant la créature et se retrouvèrent acculés à un mur. La paroi humide et froide s'effritait sous leur toucher. La créature s'approchait d'eux de plus en plus et Pierre pensa bêtement qu'elle allait les laisser tranquilles au bout d'un moment car finalement, ce n'était qu'une attraction après tout. Une simple attraction vide d'autres clients. Une attraction terrifiante où ils étaient les seuls à être épouvantés. La lumière se coupa, les laissant dans les ténèbres. Une respiration au relent de poissons pourris vint leur fouetter le visage. Pierre en eut un haut le cœur, mais il ne voulait pas faire le moindre mouvement, les poings fermement serrés. Lorsque l'éclairage revint, la créature était juste en face de Pierre, tenant dans ce qui ressemblait à une sorte de bras terminé par une pseudo-main, une petite hache rouillée qu'elle leva au-dessus de la tête du jeune homme. Il se mit à rire en disant à la chose que c'était bien joué et qu'il avait eu peur, que finalement l'attraction était assez bien faite et terrifiante. Et pour seule réponse, la créature abattit la hache sur le haut du crâne du futur mari de Cathy, ce qui provoqua un geyser de sang écarlate qui éclaboussa la jeune femme blonde et meurtrie au plus profond de son être. Puis la chose attrapa les rebords de la plaie et écarta les deux côtés du crâne de Pierre afin de déchirer sa tête en deux, laissant s'échapper des litres de sang et de matière grise mélangés à un globe oculaire fraîchement sorti de son orbite. La langue visqueuse de ce qui était Pierre avant cela gesticulait dans le vide comme pour hurler sa souffrance. Un amas de glaire sanguignolant jaillit de sa trachée dans un bruit morbide et humide. Puis le corps sans vie du jeune homme tomba mollement sur le parquet de la pièce poisseuse d'hémoglobine, comme un pantin de bois abandonné par son marionnettiste. Cathy hurla et la créature recula pour entrer dans la boîte d'où elle était sortie. Un clic sonore se fit entendre et une petite porte camouflée dans un des murs s'ouvrit pour laisser la pauvre Cathy sortir de la pièce. Une autre salle s'illumina pour elle. Un rouge oppressant et démoniaque inondait la chambre, et sortant de nulle part, tout un tas de créatures se dirigèrent vers Cathy. Terrifiée, elle put apercevoir un vampire aux dents acérées et à la bouche pleine de sang frais. Un Mr. Hyde au visage tombant, les lèvres gonflées entourant des dents pourries. Une créature de Frankenstein traînant sur le sol le cadavre d'une jeune fille. Une momie poussiéreuse et sale laissant s'échapper du sable à travers ses bandages. Un mort-vivant en putréfaction grommelant et boitant la bave aux lèvres. Puis elle trébucha sur des morceaux de cadavres croupissant dans un miasme rosâtre et glissant. Et toujours à reculons, elle tâtonna le mur qui la stoppa dans sa retraite pour y découvrir une poignée. Elle l'actionna et la frêle jeune femme, trompée et abusée, se retrouva enfin dehors. Enfin libre, seule et abasourdie dans cette ruelle londonienne sombre et arrosée d'une pluie fine et calmante, elle prit un temps pour souffler et accuser le coup de ce qui venait de se passer. Puis, consciente et reprenant progressivement ses esprits, elle put lire la petite pancarte vissée sur la porte de l'attraction. Fermeture administrative pour cause de non-respect des règles de sécurité. Date de fermeture le 20 avril 1975. Cathy, les cheveux en bataille, le visage noirci par son mascara mêlé de larmes et d'hémoglobine, coulant sur ses joues. La veste et le pull de mohair blanc maculé de sang. Lâcha la petite hache rouillée qu'elle tenait dans la main droite et s'enfonça dans une artère bondée de passants et de touristes qui ne la remarquèrent même pas. nous avons souvent peur de l'inconnu. Nous frissonnons dès l'entrée dans une maison de l'horreur ou d'un train fantôme de fête foraine. Nous recherchons cette dose d'adrénaline qui nous fait hurler de rire ou de peur. Lorsqu'un monstre surgit d'un recoin sombre, notre cerveau s'électrise. Il nous envoie une décharge d'émotions, un sursaut de folie pure. Nous aimons nous faire peur. La peur est un sentiment partagé avec toutes les créatures qui vivent sur notre planète. Même la bête la plus féroce et courageuse a peur. Qui n'a pas fait sursauter une amie en se cachant derrière une porte ou en jaillissant d'une cachette avec un masque terrifiant sur le visage? Et puis parfois, nous sommes effrayés par l'autre. Une femme, un ami, un mari ou un frère, une personne que nous pensions connaître mais qui au final est un inconnu, un étranger, un doppelganger en puissance. On a rigolé avec lui, on a frissonné de passion pour elle, et puis un jour, il ou elle se révèle et devient notre plus grande peur, pouvant aller jusqu'à l'innommable. Alors, en vous couchant ce soir, pensez à ceci. Connaissez-vous vraiment la personne qui est à vos côtés? En attendant, je vous présente la troisième et dernière histoire. Elle s'intitule « L'ombre de la révolution » et m'a été envoyée par le rat technicien. Juin 1789. J'avais tout pour réussir. Un titre, un palais, une femme et deux magnifiques enfants. De l'argent, à n'en plus savoir qu'en faire, et des terres jalousées par beaucoup. Depuis quelques mois, les Français se révoltent sauvagement et détruisent tout ce qui touche à leur idée démocratique. Mais depuis trois semaines, les choses ont évolué. Enfin, ces choses ont évolué. Le 9 mai, vers l'aurore, je dînais avec ma famille. Hugo et Madeleine se chamaillaient comme à leur habitude. Ce ne sont pas de méchants diablotins, mais de vrais petits anges. Mes petits anges. Gabriella, sublime et charmante, émergeait tel un joyau rare au cœur d'un champ de mauvaises herbes. Sa grâce délicate, aussi éblouissante qu'une rose parmi l'ordinaire, la distinguait avec une élégance réservée aux rêves. Chaque pas qu'elle faisait résonnait comme une douce mélodie dans l'atmosphère lourde de la noblesse en déclin. Elle et moi savourions notre repas en évoquant toutes sortes de sujets, bercés par la douce mélodie du crépitement du feu dans la cheminée. L'ambiance reflétait la même harmonie que celle qui avait enchanté notre mariage, célébré près des rives douces de la Dordogne. Lors du dîner, un serviteur, pâle comme le spectre d'une nuit sans lune, surgit soudainement près de notre table. Ses yeux sauvages reflétaient une terreur indicible. Après avoir péniblement repris son souffle, il s'efforça de prononcer des mots qui semblaient hésiter entre le cri et le murmure. Il nous fit part d'un accident survenu lors du Conseil des États généraux, ce 6 mai. Une tragédie qui avait transformé la salle en un abattoir maudit, où les âmes se sont entremêlées dans une danse horrifique, scellant le destin de tous ceux qui osaient pénétrer dans cet enfer terrestre. D'après lui, le peuple, dévoré par une colère inextinguible, ne fut point satisfait des décisions prises là-bas. Ils ont pénétré par la grande porte, une marée humaine déchaînée s'abattant sur la salle, telle une vague dévorant tout sur son passage. Le chaos a régné, une symphonie macabre composée de hurlements et de l'écho des armes improvisées. Bien sûr, les députés, emprisonnés dans l'arène de la révolte, ne se sont pas laissés faire. Une danse macabre s'est déroulée, une danse où l'angoisse était la seule mélodie. Ils se sont entretués dans une frénésie de folie meurtrière. Aucun survivant. Les murs de la salle ont absorbé le dernier soupir de la démocratie, laissant derrière eux une atmosphère saturée de terreur, imprégnée de la monstruosité de l'humanité en déroute. Le plus horrible dans cette histoire, le 7 mai, deux jours plus tard, pendant la nuit, un membre de la maréchaussée, assigné à la garde de la salle encore habitée par les âmes des défunts, fut soudainement transpercé par des cris stridents, Des hurlements aussi aigus que le glissement d'une fourchette contre le couvert en porcelaine. Aussi stridents que les trompettes du jugement dernier, déchirant le voile de la tranquillité nocturne. Dans l'obscurité étouffante, il découvrit l'origine de ces hurlements infernaux. Les cadavres, entassés, déjà froids et sans vie, semblaient revivre dans une chorégraphie infernale. Des membres déchirés se mouvaient dans une danse grotesque, des os craquant comme des branches sous pression. Au cœur de ce tableau d'horreur, le membre de la maréchaussée, pris de terreur, fut retrouvé, son corps déchiqueté, fusionnant avec la masse des défunts dans une symphonie de chair déformée. Un silence oppressant succéda au cri, laissant derrière lui une scène d'effroi indescriptible, teintée du parfum nauséabond de la mort. Les ombres mouvantes des cadavres semblaient murmurer des secrets indicibles, tandis que l'air lui-même semblait empreint de monstruosité, engloutissant toute trace de sérénité qui aurait pu subsister. Cette histoire secoua la table du dîner comme une barque frappée par le plus terrible des ouragans. Le récit glaça nos cœurs, transformant l'atmosphère paisible en une mer agitée par l'effroi. Soudain, la porte s'ouvrit violemment, laissant entrer un garde, son visage aussi blanc que la plus froide des neiges, courant désespérément avant de s'effondrer d'épuisement près de mon siège. La vision de ses blessures, sa respiration haletante et le bruit strident émanant du couloir sombre révélaient l'ombre terrifiante de la réalité. La chorégraphie sanglante qui avait submergé Paris s'était étendue jusqu'à notre demeure. Les gardes, armés et résolus, partaient vaillamment affronter ces créatures dénuées de vie, tandis que nous, impuissants, étions témoins de l'agonie qui s'abattait sur notre seuil. Pas un son d'épée ne parvenait à nos oreilles, seulement des hurlements déchirants et le bruit répugnant de la chair broyée et grignotée, se frottant aux armures de métal des valeureux gardes. Chaque écho de terreur renforçait notre propre angoisse, faisant de notre demeure autrefois paisible un théâtre où la mort dansait avec une froide et implacable ferveur. L'ombre de l'horreur s'abattit sur notre repas, transformant le dîner en un spectacle de cauchemar où la réalité semblait se dissoudre dans le chaos. Sous état de choc, nous ne pouvions plus bouger. Malgré cela, les bruits se rapprochaient à une vitesse plus que remarquable. Nous mettions la panique de côté, mais notre curiosité devenait un allié perfide. Soudain, dans l'obscurité oppressante, une silhouette décharnée surgit de l'ombre et un cri rauque déchira l'air, tandis qu'un monstre sauta sur le serviteur, le clouant au sol dans une danse grotesque de membres démantibulés. Le spectacle macabre déclencha une réaction indistincte. Nous courûmes avec une terreur effrénée. Les bruits des créatures dévorant les corps sans vie retentissaient derrière nous, devenant une symphonie morbide. Un à un, ma famille tomba sous les assauts de ces créatures affamées. Leurs hurlements de douleur et de terreur résonnaient dans l'air, accompagnés du bruit dégoûtant de chair déchirée et d'os broyés. Les entrailles répandues sur le sol formaient un tableau d'horreur indescriptible. Je parvins à atteindre ma chambre, barricadant la porte dans un geste frénétique. Le silence qui s'ensuivit était plus terrifiant encore que le carnage derrière moi. La peur me tenaillait, mais la survie dictait ma volonté. Cependant, à travers le calme précaire, un murmure grotesque se fit entendre. Un grand nombre de monstres mangeurs d'humains frappaient à ma porte, griffes et dents cherchant avidement à pénétrer la seule barrière entre eux et leur prochaine victime. La réalité de l'horreur s'imposait alors, dans l'ombre de ma chambre, où je restais caché, impuissant face à l'avalanche de créatures insatiables qui cherchaient à m'engloutir dans les ténèbres. Les hurlements des monstres résonnent encore dans le silence de ma chambre, comme une symphonie dénuée de sens qui hante mes pensées. Le bois de la porte cède peu à peu, éclat par éclat, face à la frénésie des créatures affamées. Les ombres grotesques se glissent dans la pièce, leurs yeux sans vie me fixant avec une avidité dévorante. Dans l'ultime éclat de lucidité, je réalise que ma survie ne fait que prolonger l'agonie. La mort rôde dans chaque recoin, et la terreur m'enserre de ses griffes invisibles. Mes proches, jadis pleins de vie, ne sont plus que des souvenirs dévorés par l'obscurité située devant ma porte, en ayant le même but que les autres. Leur cœur morbide résonne dans ma tête, réveillant une terreur insoutenable. Les ombres s'étirent, dansent et murmurent des promesses de tourments éternels. Les créatures de l'ombre ne connaissent ni pitié ni répit. Elles sont là, dans l'ombre de ma conscience, attendant que mon dernier souffle devienne leur festin. Vous venez d'écouter l'épisode 54 de Creepy Story. Ce podcast est écrit, raconté, monté et produit par moi, Dan, via la Sentence Prod. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager un maximum autour de vous. En parler, c'est le faire vivre par-delà ce podcast pour qu'il devienne à son tour une légende urbaine. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Anchor, Spotify, Google Podcast, Deezer et bien d'autres. Si mes histoires vous ont plu, vous pouvez me laisser quelques étoiles et des commentaires sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Avoir vos retours me fait à chaque fois énormément plaisir, mais ça, maintenant, vous le savez, bien sûr. Vous pouvez aussi m'envoyer vos histoires sur podcastcreepystory@gmail.com. Et si vous voulez me donner un petit coup de pouce, sachez qu'il existe un Patreon dédié à Creepy Story. En devenant membre, outre le fait d'avoir l'épisode en avance de 48 heures, vous avez aussi accès à un nouveau podcast exclusif à Patreon. Il s'agit de C'est Creepy Story, un crosscast co-animé avec Vanny du podcast C'est Creepy. C'est une collaboration à long terme où l'horreur et l'épouvante se mêlent à l'humour et à la détente. Tout de suite, un petit extrait du premier épisode. Eh bien, bonsoir Vanny.
Bonsoir Dan.
Enfin, j'ai envie de l'annoncer.
Enfin,
on a réussi à se caler une date pour pouvoir vous proposer ce, je te laisse le dire,
crosscast.
De quoi?
Crosscast.
Crosscast, c'est très dur à dire et c'est l'abréviation de crossover et podcast.
Wow. Voilà,
donc ce n'est pas.
Ah
comme
bon?
Oui, bah oui, c'est un peu ça.
Ah
c'est,
oui.
Donc c'est de l'américain, crossover, avec mon accent texan. En fait, du Texas, je n'aime que la sauce barbecue. Je vais pas aller très loin. Et podcast, voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris, le cast.
Et c'est super dur à dire.
Jeux. Ouais, c'est vrai. Donc on a eu quoi? On a eu coscast.
Ouais.
On a eu crotcast.
Crotcast.
Voilà.
Mais ça, on s'est dit que ce serait pour plus tard, notre carrière.
Ouais.
On va attendre
plus tard dans la soirée. Ouais.
On va attendre d'être un continent.
Donc voilà, vous avez pu écouter donc ce premier épisode de C'est Creepy Story, un crosscast, j'ai réussi à le dire d'un seul coup, que nous avons un peu réfléchi, pensé depuis un petit bout de temps. Voilà, on avait envie de faire un petit mélange. Ça fait c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en a parlé.
Ouais, je vais pas ressortir les archives, mais je crois que c'était après ou même pendant le live, le dernier live de la nuit de l'horreur. Je sais plus si c'était comme ça qu'elle s'appelait. Ouais, on en parlait à ce moment-là. Donc c'était en octobre.
Ouais, et je me demande même si on nous avait pas insufflé l'idée à Podren, parce que à chaque fois, c'était les gens se plantaient, ou même nous, on se plantait sur le nom de nos podcasts.
Ah oui.
Quand on disait,
oui, c'est vrai.
Disait, ouais, c'est bah creepy,
oui,
ou c'est creepy story. Ou...
En plus, je me souviens que quand j'ai commencé mon podcast et que j'ai choisi le nom, je voulais l'appeler C'est Creepy, mais je me suis dit, je vais quand même aller vérifier qu'il n'y en a pas déjà un. Et j'ai tapé, parce que moi, j'écoutais pas trop de trucs avec le nom creepy dedans. Du coup, j'ai tapé Creepy et j'ai vu Creepy Story. J'ai cliqué et je me suis dit, oh, waouh, faudrait que j'écoute plus tard. Et je me suis dit, bon, mais c'est bon, il parle d'affaires fictionnelles, donc ça va. Et du coup, bah, j'ai gardé, c'est creepy.
Ouais, c'était pas le même contenu, donc tout va bien, oui, ne vous énervez pas. Voilà, ne montez pas sur vos grands chevaux, ok ? Vous redescendez un peu les gens. Merci. Donc voilà pour les petites explications, voilà d'où ça vient. Ça faisait un petit bout de temps, et puis moi, j'aime bien ton humour. Tu vois, ça m'a toujours fait rire, parce que même dans tes podcasts, il y a toujours de l'humour, ça détend un petit peu, malgré les thèmes qui sont abordés, qui sont parfois un peu insoutenables. Mmh. Et j'aime bien les petits trucs qui apparaissent, les petits mots en plus, les petits...
Ouais. Et toi aussi, hein, on dirait pas, hein, mais tu es très drôle.
Oui, je suis drôle, mais pas peut-être pas en podcast. Enfin, je suis drôle, genre le gars qui se... je sais que je suis drôle, tu crois quoi? Eh tiens, tire sur mon doigt. Et voilà, il y a ce côté, puis en plus, bon, c'est vrai qu'on a fait pas mal de... Pas mal justement de feat avec les antipodes. Ce qui a, voilà, on a bien rigolé. Il y a cette petite guerre de génération aussi qui ont beaucoup fait rigoler les gens. C'était
pas
partagé.
De quoi tu parles,
ça.
Mais oui.
Oui, non, écoutez, ça a été partagé parce qu'il y en a qui ont dit oh le pauvre, et il y en a qui rigolaient de ça et qui ont profité, qui en remettaient une couche. Et moi, ça m'a toujours
fait.
Ah
oui, j'en ai entendu parler, ouais, j'ai eu des échos de ça. Ouais. Ouais.
Il y a même hors, même pas dans nos podcasts à nous, j'ai vu sur Discord des gens qui ont dit oui, qui balançaient une vanne en disant Vanny Style ou un truc comme ça, tu vois.
Vanny Style.
Ouais, donc c'était drôle. Enfin, à la façon de toi, quoi.
Ok. Ah oui, d'accord. Je vois à quoi se fait référence, oui.
Donc tu es une... C'est toi la référence, voilà. Tu es la référence dans le jalon du « je me fous de la tronche des vieux ».
Non, bravo. C'est faux. C'est... Coupe, tu coupes. Merci.
Je couperai ça au montage. Je ne suis même pas sûr du montage. Donc voilà, donc vous avez écouté le premier épisode de C'est Creepy Story. Comme on vous l'a dit dans l'intro, il y aura donc un petit concours, n'est-ce pas?
Ouais, petit jeu.
C'est un petit jeu, c'est ça.
Ouais.
Et le but, c'est de retrouver, donc parmi les histoires qu'on vous a lues, de retrouver... Et voilà mes chers amis, si vous voulez connaître la suite et pouvoir écouter les autres épisodes, n'hésitez pas à devenir membre Patreon. Je vous laisse le lien pour y accéder en description de cet épisode. Et ainsi, vous pourrez faire comme Luigi, CC, Charlie, Fatfouine, Nonor, Victoire, Marine, Saki, Cannebarge, Claire, Coralie, Rodolphe, Yop et Indigo, Cora, et Vincent. Souhaitons la bienvenue à Némombe, Stéphia C et Mywen. Bienvenue à vous, chers nouveaux Patreons, et encore merci pour votre aide. Un salut spécial et remerciement, par la même occasion, à Pascal, Vincent J, Benjamin, Hello, Aurélie, Pascal, encore une fois, Aurel, Simon, Clémentine, Mélanie, Ruby, Neko, Cynthia, Stradivarius, Merlin, Félix et Angelina. Merci aussi à Romain, Waxy Kink, Nadia, Rémi et Esther. Merci à vous, les amis. Merci pour votre soutien. Tiens d'ailleurs, en parlant de membres Patreon, j'ai reçu un petit message de CC.
Je suis époustouflé par votre talent, pour l'invention, la richesse de vos histoires. Vous n'avez pas peur d'essayer des choses surprenantes. J'espère que vous changerez d'avis sur les maisons hantées. J'aimerais voir ce que vous auriez à dire sur ce sujet.
Merci à toi. Ce petit message me va droit au cœur. Vous pouvez vous aussi me laisser un message sonore à podcastcreepystory@gmail.com. Et puis tiens, si vous avez des questions à me poser sur le podcast, vous pouvez le faire à cette même adresse, afin que je puisse préparer un épisode spécial FAQ. J'en profite aussi pour remercier tous les auditeurs et auditrices qui m'ont laissé un message et une note sur Apple Podcast et Podcast Addict. Merci pour votre bienveillance et votre soutien. Un grand merci encore au rat technicien AKA Ethan pour son histoire horrifique sur fond de Révolution française. Quelque chose me dit que vous retrouverez une autre de ces histoires très prochainement. Et voilà mes amis, cet outro interminable est enfin fini. On se retrouve très vite pour l'épisode 55, avec comme vous le savez déjà, des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit. Décidément, cet épisode est l'épisode de tous les records. Après une intro titanesque, l'épisode 54 dépasse très largement les temps habituels.